Bonjour chers amis auditeurs, sur le plateau de l'émission Le temps d'une cathédrale, nous sommes avec Marie-Madeleine Rey. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Alors, nous continuons notre visite guidée de la cathédrale de Cahors. Nous avons terminé la semaine dernière les peintures qui sont essentiellement dans le chœur et un tout petit peu hors du chœur. Et nous continuons par les chapelles. Et il y en a quand même quelques-unes dans la cathédrale, chapelle du 13e, 14e, chapelle du 15e, voilà. Donc, Marie-Madeleine, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un historique de ces chapelles, un historique général, on va dire?
Alors, lors de la construction de la première cathédrale, donc au XIIe siècle, consacrée en 1119, du moins pour le chœur, le chœur donc était entouré de trois chapelles, qu'on appelle des absides, hein, aussi, on peut les appeler absides. Donc, une axiale, qui existe toujours bien
Oui,
entendu,
dans laquelle se
c'est-à-dire,
trouve
voilà,
actuellement la Sainte Coiffe.
dans l'axe de la construction de la cathédrale, c'est-à-dire la nef était dans le profil de cette chapelle
Oui,
axiale.
c'est la chapelle que nous apercevons immédiatement derrière l'orgue de chœur lorsque nous sommes au portail,
Voilà,
derrière le portail ouest,
voilà,
dans la cathédrale.
derrière le chœur, hein, voilà, quand on est à l'ouest, si vous voulez, quand on voit la cathédrale en entier, la chapelle axiale est au fond, tout à fait derrière le chœur. Voilà. Et donc, cette chapelle axiale était entourée de deux chapelles symétriques. Donc, celle de gauche, et c'est la chapelle actuelle Alain de Solminiac, donc elle existe toujours. Et à droite, il y avait une chapelle qui a été détruite pour y mettre à la place la chapelle profonde, la chapelle dite profonde, qui est la chapelle Notre-Dame,
Et qui est la chapelle
au XVe siècle.
du Saint-Sacrement.
Voilà. Donc, si vous avez dans l'œil un petit peu cette cathédrale romane, elle est toute simple. Donc, le portail ouest n'existait pas. Le portail ouest n'existait pas. Donc, il y avait un mur à l'ouest.
C'est ça, on entrait par le
Voilà.
portail, ce qu'on appelle le portail nord.
On rentrait par le portail nord et par le portail sud également. Voilà. Et la nef, donc, était partagée en deux travées, elle l'est toujours, partagée en deux travées et deux coupoles, hein, couverte de deux coupoles. Et ces travées, donc, dans ces travées, il y avait des petites chapelles, donc trois par travée de chaque côté, donc ça fait six. Et ces chapelles, donc, il faut se souvenir que la cathédrale était un lieu de pèlerinage.
Tout à fait.
Et que, vu le nombre de gens et de pèlerins qui défilaient dans cette cathédrale, menés par des prêtres multiples, ces prêtres voulaient dire les messes, leurs messes. Et donc, dans ces chapelles, il y avait certainement des autels pour que chaque pèlerinage ait sa messe. Hein, voilà. Un peu le système de Rome, de
Oui,
Saint-Pierre de
c'est ce que
Rome.
j'allais vous
Hein,
dire, hein,
voilà.
c'est ce que j'allais vous dire.
Voilà. Enfin, je suppose que c'était ça. Voilà. Donc la cathédrale était toute simple, une nef et un chœur, avec trois chapelles rayonnantes. Hein, voilà. Donc nous passons au XIVe siècle, enfin au début du XIVe siècle. Vous savez qu'il y a eu un grand remaniement de la cathédrale, du chœur pour commencer, parce que certainement que la partie supérieure du chœur s'est effondrée. Ou avait subi de graves dommages, donc il était nécessaire de le reconstruire. Et on l'a reconstruit à cette époque-là en gothique, évidemment.
Eh oui.
Donc, la chapelle axiale a été reconstruite. Et la chapelle Alain de Solminiac n'a pas été reconstruite. Les murs sont bons à l'heure actuelle.
Oui, elle a d'ailleurs été restaurée il y a 2 ans.
Voilà. Et la chapelle de droite a dû être reconstruite à cette époque-là. Mais nous n'en avons que la racine, si j'ose dire, d'un mur, hein, voilà, qui est à droite de l'entrée de la chapelle actuelle profonde, hein, voilà. Et à ce moment-là aussi, au début du XIVe siècle, a été construite l'ouverture ouest avec ce grand massif ouest.
D'accord.
Qui renferme aussi deux chapelles.
Mmh. Hein, voilà. Oui, nous parlerons effectivement lorsque nous ferons le tour.
Voilà. On va essayer de garder le sens chronologique un petit peu, je pense, hein, bien qu'il y ait des imbrications des siècles entre eux, donc c'est très difficile.
Oui, je vous disais, la chapelle Alain de Solmignac, non, a été restaurée il y a 3-4 ans. C'est la chapelle axiale qui a été restaurée il y a 2 ans.
Voilà. Alors, la chapelle axiale a subi beaucoup de réfections, en particulier au XIXe siècle, mmh. puisque le mur du fond de cette chapelle est XIXe.
D'accord. Hein.
Et puis, il a été restauré récemment, surtout à l'extérieur, mmh. hein, pour les toitures en particulier, et pour maintenir l'étanchéité, garantir l'étanchéité mmh. de cette chapelle.
Donc, au XIVe siècle, il y a eu deux chapelles particulières qui ont été érigées. Donc, il y a la chapelle du Sacré-Cœur.
Oui.
Et la chapelle Saint-Martin. Donc, chapelle Saint-Martin que nous verrons pratiquement en dernier, avant le cloître, qui était la chapelle des messes de semaine.
Oui.
Et qui est devenue
la grande sacristie.
La grande sacristie. Voilà.
Voilà. Oui. Deux au XIVe siècle, donc,
et voilà. Voilà.
Et au XVe, donc, la chapelle profonde. La chapelle Saint-Antoine, qui se trouve entre la chapelle Alain de Solmignac et la chapelle axiale, mmh. et aussi la chapelle Saint-Gosbert, qui se trouve dans le cloître.
Hein, voilà, avec des peintures, voilà. Avec des peintures assez particulières, mais nous en reparlerons quand nous serons, c'est quasiment en dernier, puisque nous terminerons par le cloître. Donc, nous commençons peut-être, Marie-Madeleine, par une chapelle qui est très particulière.
Bon, c'est la chapelle axiale.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, la chapelle axiale dans laquelle se trouve actuellement depuis le 6 décembre 2019, la Sainte Coiffe. La Sainte Coiffe qui a été mise à l'honneur pour le 900e anniversaire de la cathédrale de Cahors. Elle se trouvait à ce moment-là dans le chœur, en attendant que cette chapelle soit terminée au niveau de la restauration. Alors, cette chapelle, nous y sommes devant. Elle a été raison, il y a des peintures sur les côtés, il y a des tableaux,
oui.
Il y a un très bel autel, et bien sûr, au-dessus, la Sainte Coiffe.
Alors, tableaux et peintures murales ont été restaurés donc au cours de l'année, des années 2018-2019. Mm-hmm. Donc, les murs sont assez gais, mais le sujet est très douloureux.
Tout à fait.
Voilà, parce que je dis que c'est gai parce que c'est du rose et du jaune. Mm-hmm. C'est très éclairé. En fait, ce sont des couleurs joyeuses, disons. Mais le thème évidemment est douloureux puisqu'il s'agit de la crucifixion de Jésus. Mm-hmm. Donc sur les fonds roses, nous avons des séries de 3 clous.
Tout à fait. Bien sûr.
Alors 3 clous. Jésus, donc pourquoi 3 ? Parce qu'on peut se dire 4 aussi.
Oui.
Puisqu'il y a 2 mains et 2 pieds. Mm-hmm. Eh bien non, puisque jusque au milieu du XIIIe siècle, les Christs sur la croix étaient représentés un pied sur l'autre.
Effectivement.
Et non pas les pieds juxtaposés.
Et il y a dans beaucoup d'églises, ils sont représentés comme ceci. Oui,
donc
oui.
Beaucoup de crucifix sont représentés comme ça. Et donc, il n'y avait que 3 clous, mm-hmm. un seul clou pour les 2 pieds superposés. Mm-hmm. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, donc, en alternance, des fonds jaunes sur lesquels, donc, sans regarder trop, on pourrait croire à du liseron.
Oui.
Hein, voilà.
Oui, comme ça.
Et ce liseron, si on regarde de près, eh bien, il a les feuilles en forme de cœur.
Oui, effectivement.
Vert,
oui. Et des épines.
Et les tiges sont semées d'épines.
Effectivement.
Voilà. L'épine qui, normalement, vient du février à 3 épines, mm-hmm. qui peut être un très gros arbre, mais qui a des épines gigantesques et très dures. Gigantesques, je dis qu'elles peuvent aller jusqu'à 5-6 centimètres de long. Hein.
Mm-hmm. Ces peintures, donc, représentent tout à fait la passion.
Oui.
Et représentent la mort de Jésus,
alors,
bien sûr.
Alors, c'est pour ça, donc, c'est significatif de la crucifixion de Jésus, de la mort de Jésus, de la souffrance de Jésus, et c'est certainement pour ça que la Sainte Coiffe s'y trouve, bien mmh, sûr, mmh. Et que cette chapelle a été faite pour la Sainte Coiffe.
D'accord, parce qu'effectivement, on a dit qu'elle a à ce moment-là, on avait dit qu'elle a réintégré à Sainte-Coiffe cette chapelle.
Oui.
Donc, ce qui veut dire qu'elle a été dans cette chapelle précédemment.
Dans le passé, oui. Et certainement dès l'origine. L'origine. Puisque, quand même, la cathédrale a été... Les plans de la cathédrale...
Donc, voilà pour le décor.
Des murs. Alors, évidemment, ce qui attire le regard, c'est évidemment l'autel, puisqu'il est au milieu de cette chapelle.
Oui, et puis il y a tout ce qu'il y a au-dessus, bien sûr, ce qui est très beau, et qui a été refait, je pense.
Donc, ça a été restauré. Ça a été restauré, bien sûr.
Oui, oui.
Il fallait un écrin correct pour accueillir la Sainte-Coiffe à Pentecôte 2019, quand même. Voilà. Alors, cet autel, il est en calcaire local, peint, avec cinq arcades sur le devant de l'autel, et ensuite surmonté d'un tabernacle avec une porte en bronze sculptée de feuillage, voilà, et lui-même surmonté d'une sorte de temple, si on peut dire, à colonnes, quatre colonnes, qu'on appelle dans le jargon artistique un tempietto, c'est-à-dire un petit temple.
D'accord. Hein, oui.
Ça vient de l'italien, bien sûr.
Oui, hein. Oui, tout à fait.
Et alors au-dessus de ce tempietto, il y a la monstrance, c'est-à-dire l'édicule qui a aussi la forme d'un petit temple où l'on place la Sainte Coiffe.
D'accord.
Voilà. Et monstrance, ce nom vient du latin, bien sûr, pour dire montrer.
D'accord. Hein,
quelque chose qui montre aux yeux des fidèles. Évidemment, on montre la Sainte Coiffe. La Sainte Coiffe, donc à l'heure actuelle, est dans cette monstrance. Bien protégé par des vitres blindées, bien sûr. Voilà. Et on peut donc passer derrière l'autel.
D'accord.
Derrière l'autel, si on fait un pèlerinage ou si on veut vénérer la Sainte Coiffe. On peut s'arrêter dessous, sous la Sainte Coiffe, et repartir, donc, par le côté gauche, on rentre par la droite, voilà. Et voilà, c'est le système des pèlerinages. Hein.
Tout à fait. D'ailleurs, en 2019, il y a eu énormément de pèlerinages.
Voilà, et de passages. De passages autour de la Sainte-Coiffe. Les gens passaient derrière l'autel, s'arrêtaient sous la Sainte-Coiffe. Mm-hmm. Et maintenant, on peut toujours le faire si la chapelle est ouverte.
Mm-hmm.
Parce qu'elle n'est pas constamment ouverte.
Oui, parce que devant cette chapelle, il y a quand même une grande grille.
Une très belle grille qui est contemporaine, qui a été faite à l'occasion de... à l'occasion de la réfection de la chapelle. Elle est très très belle, mais j'ignore l'auteur. Et si quelque auditeur pouvait me renseigner, ça serait très sympa.
L'appel est lancé.
Parce qu'elle est très très belle, vraiment très fine, et c'est très joli, très très joli. Voilà, alors...
Donc, nous sommes... nous apercevons la Sainte-Coiffe. Est-ce que Marie-Madeleine, avant de continuer sur les peintures et les tableaux qui se trouvent dans cette chapelle, vous pouvez nous retracer l'historique de cette Sainte-Coiffe.
Alors, ici, on est quand même dans le conditionnel.
Oui.
Hein, il faut rester, d'ailleurs. Voilà, il faut rester dans le conditionnel. Mmh. Alors, ce qui est accepté à l'heure actuelle, enfin, plus ou moins, change de ce qui se passait avant. En ce sens que on accepte désormais l'idée que cette Sainte Coiffe serait arrivée donc au XIIe siècle suite à la première croisade et ramenée de Constantinople par l'évêque du moment Géraud de Cardaillac, qui était parti à la première croisade à la suite de Godefroy de Bouillon. Cette Sainte Coiffe donc serait arrivée à Cahors à ce moment-là. Bon, il y a des contestations que je respecte tout à fait parce que finalement on ne sait pas véritablement. Oui, il n'y a pas de preuve écrite.
Il n'y a pas de preuve écrite. J'avais bien compris.
Les premières preuves écrites datent du XVe siècle. Voilà. C'est quand même mieux, si j'ose dire, que la légende qui s'est instaurée dans l'esprit des habitants de Cahors, en ce sens que ça serait Charlemagne, qui aurait donné la sainte coiffe à l'évêque du moment, c'est-à-dire en l'an 800 en gros, pour Cahors. Voilà. Alors, ça, c'est à vraiment réfuter totalement, bien qu'il y ait encore des gens qui y croient, mais bon, pourquoi pas, après tout.
Bah, étant donné qu'il n'y a pas de preuves, effectivement,
il n'y a pas
après,
de preuves.
Ça laisse toute la place à l'imaginaire.
Et pour le reste, non plus, il n'y a pas de preuves. Donc, voilà, on est à égalité, à la limite. Et donc, cette sainte coiffe, bon, je peux en parler techniquement, peut-être.
Oui, alors, il faut peut-être rappeler ce qu'est la sainte coiffe, qui a recouvert quand même la tête du Christ. Voilà.
Bien sûr, évidemment. Alors, dans un premier temps, vous avez l'évangile de Saint Jean, au chapitre... Attendez. Chapitre 20, et qui raconte ce que Jean a vu.
D'accord.
Voilà. Donc, je ne vous lis pas tout, évidemment. Vous pouvez vous référer donc, au chapitre 20, versets 1 à 9. Et ça raconte que Pierre et Jean courent au tombeau à la suite de Marie-Madeleine, qui vient les avertir que Jésus est ressuscité. Ils arrivent au tombeau, mais Jean est plus jeune, donc il arrive en premier. Il ne rentre pas dans le tombeau, mais déjà, il a vu dans le tombeau qu'il y avait quelque chose. Et Pierre arrive, rentre dans le tombeau, et tous les deux donc voient qu'il y a les linges. D'un côté, le linge des bandelettes et du linceul, et posé à côté, le linge qui avait recouvert la tête. Voilà. Et Jean dit... Je vis et je crus. Enfin, il parle à la troisième personne de lui. Il vit et il crut. Donc, cette coiffe serait le linge qui a recouvert la tête de Jésus. Voilà. Alors, c'est selon les rites d'enterrement des Juifs, de l'époque, du premier siècle. Voilà. Alors, c'est une histoire de foi, bien sûr, mais bon, je vais donner quand même un petit avis personnel. Ça n'ajoute rien à la foi que nous avons, mais ça peut aider, ça peut porter, en ce sens que ce linge est le signe de la résurrection. C'est un signe, il faut le prendre comme un signe. Et à la limite, que ce soit celui de Jésus ou celui d'un autre, on sait qu'il y a eu un défunt qui a eu cette coiffe.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Alors évidemment, après, chacun est libre de penser.
Oui, parce qu'effectivement, lors de passage de pèlerin qui a été... des passages conséquents, parce qu'il y en a eu, il y a eu beaucoup de pèlerinages en cette année 2019, donc année du 900e anniversaire de la cathédrale. Effectivement, c'est une question de foi.
Voilà. Oui.
On dit bien, il vit et il crut. Et effectivement, beaucoup de pèlerins sont venus voir cette sainte coiffe, qui est quand même connue dans le monde entier, qui aurait reconnu à ce niveau-là. Mais effectivement, tous ces pèlerins sont venus parce qu'ils ont cru.
Oui.
Et effectivement, c'est comme vous dites, c'est une question de foi.
Voilà.
Peu importe, peut-être, je dis bien peut-être, non plus rentrer dans une polémique, mais peu importe, peut-être le défunt. Mais en tout état de cause, c'est une question de foi.
Voilà. Et c'est pour les chrétiens, c'est le signe de l'incarnation de Jésus.
D'accord. Tout à fait.
De l'incarnation du Dieu vivant. Voilà.
Alors, cette sainte coiffe, vous pourriez nous la décrire un petit peu actuellement.
C'est un linge qui, donc, il y a eu des analyses, et c'est un linge qui date du 1er siècle, ça c'est certain, qui contient dans ses fibres des pollens qui sont très anciens, bien sûr, et qui sont originaires de la Palestine.
D'accord.
Voilà, ce sont deux éléments.
Un fait avéré.
Ce sont deux éléments très importants quand même. Voilà. Alors évidemment, après, nous n'avons pas, parce qu'il y a des taches de sang sur ce.
Ah voilà, c'est ça, oui.
Et nous n'avons pas l'ADN du Christ, nous ne pouvons pas prouver, et tant mieux, que c'est celle du Christ. Voilà.
C'est clair.
Donc ce linge. Je pourrais dire ces linges,
oui,
parce que c'est finalement, ce linge comporte 8 linges différents.
D'accord.
8 linges différents superposés et cousus ensemble. Cousus ensemble. Alors, vous avez du lin, vous avez du coton et vous avez aussi de la soie.
Et comment ça se fait qu'il y a une couche superposée comme ça de petits...
Eh bien, c'était peut-être pour renforcer, parce que c'est vrai que le lin est quand même assez fort comme tissu, le coton aussi peut l'être, mais la soie, il fallait peut-être la protéger.
C'est quelque chose de très fin, oui.
C'est vraiment...
Donc ça a été fait au cours des siècles, ou alors ça a été fait au premier siècle,
c'était l'usage pour l'ensevelissement des morts dans la tradition juive. Eh bien, on fabriquait ses coiffes.
Donc, c'est bien dans la tradition du premier siècle.
Oui, oui, absolument. Voilà. Alors, c'est vrai que ça n'a pas un aspect très reluisant, hein, parce qu'elle est abîmée. Mm-hmm. Elle a foncé. Sa couleur est beige foncé, un petit peu. Voilà. Mm-hmm. Et puis, elle a été abîmée au cours des siècles, parce qu'il faut savoir que les évêques des siècles précédents présentaient la sainte coiffe avec leurs mains et ils prenaient le linge lui-même.
Ah oui, d'accord.
Ils ne le présentaient
pas protégé,
dans, voilà, hein, oui. dans la, enfin, à certaines époques, à Pentecôte en particulier, les malheureux, les estropiés, les malades, tous ceux qui voulaient être guéris, eh bien, à Pentecôte, ils allaient à la cathédrale et l'évêque leur imposait la sainte coiffe dessus directement. Donc, il fallait bien qu'ils la prennent par les bouts, si j'ose dire. Alors, il faut imaginer une cagoule. Il faut imaginer une cagoule, mais qui n'a pas de face avant, si D'accord. j'ose dire. Hein, voilà. Et donc, les deux pans avant étaient pris par l'évêque et il l'appliquait sur la tête des gens et ainsi de suite. Donc, évidemment, ça s'est usé. Les deux pans se sont usés et déchirés. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on voit les couches.
D'accord, oui, sur certaines photos que vous nous avez montrées, on aperçoit effectivement les différentes couches parce que c'est déchiré à ce niveau-là.
Voilà. Puisque cette sainte coiffe a été réexaminée en 2019, donc justement avant de la mettre dans la chapelle axiale par des scientifiques. Donc,
donc elle continue toujours, on continue toujours ces analyses autour de la sainte coiffe.
Pour l'instant, non, mais la dernière était de 2019.
D'accord. Hein,
de mars 2019.
Donc elle est toujours soumise quand même quelque part à analyse, il y a toujours...
Eh bien, évidemment, on voudrait savoir vraiment, mais on sait quand même certaines choses. Hein.
Elle est quand même très bien suivie de ce côté-là, au niveau études.
Et puis, il faut la protéger parce que il faut la mettre à l'abri de l'humidité, il faut un certain taux d'hygrométrie, etc. C'est compliqué, il faut la surveiller, même à l'intérieur de son, de son reliquaire. Hein.
D'accord. Et donc, cette sainte coiffe, il y avait un certain nombre de traditions dans le passé, de traditions de procession au sein de la ville de Cahors.
Oui, bien sûr, bien sûr. À Pentecôte, surtout. Elle était sortie à Pentecôte. Voilà. Et il y avait des processions dans la ville. Et ensuite, des bénédictions avec la sainte coiffe par l'évêque.
Parce qu'effectivement, lors de la procession de la sainte coiffe, le 28 avril 2019, il y avait parmi les badauds, parmi les pèlerins, parmi toutes les personnes qui se trouvaient là, nombreuses, des personnes qui avaient connu, enfants, des processions de la Sainte Coiffe de Cahors à travers la ville de Cahors.
Absolument. C'est en 1960 que la dernière procession a eu lieu. Depuis, elle n'a plus été montrée. Voilà. Jusqu'à cette date, elle était montrée et alors découverte par l'évêque qui était en chair, qui était dans la chair et qui l'a montrée aux chanoines et aux séminaristes et aux clercs qui étaient dans la tribune en face. Voilà.
D'accord.
Et ensuite, donc, il allait dans le peuple. Enfin, en 1960, il a dû y avoir une procession, puisqu'il y a des gens qui s'en souviennent. Hein.
Tout à fait. C'est ce que je vous disais.
C'est certain.
Il relatait un petit peu cette
procession. Mais après, que l'évêque se soit promené et l'ait imposé à des malades, ça, c'est peut-être moins sûr en 1960. Hein. Voilà. Mais dans les siècles précédents, hein, au Moyen-Âge et à la Renaissance, etc., et au XVIIe, XVIIIe, il y a eu certainement de grandes célébrations avec, autour des malades.
Eh bien, écoutez, merci Marie-Madeleine. Nous terminons cette première émission sur les chapelles, mais particulièrement sur la chapelle axiale, que nous continuerons la semaine prochaine. Merci pour cet éclairage sur la Sainte Coiffe. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Au revoir Marie-Madeleine.
Au revoir Martine, au revoir à tous.
Au revoir à tous. Et la semaine prochaine, nous continuerons sur la chapelle axiale et la Sainte Coiffe. Au revoir.
Au revoir.